Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous.
Exceptionnellement aujourd'hui, vous faites la revue de presse, vous remplacez Hervé Gattegno qui sera de retour évidemment dès demain. Alors, vous avez lu les journaux et on commence avec du surréalisme dans les pages des journaux ce matin.
Ah oui, qui aurait imaginé il y a encore quelques jours du magret de canard ou du sanglier en train de rôtir tranquillement sur le bord d'une autoroute. Chose vue ce matin dans le Parisien, en pleine mobilisation des agriculteurs. Tenez, ce barrage en Seine-et-Marne et ce témoignage de Jordan. Ici, c'est le système D et de temps en temps, il y a des surprises. Des habitants non loin d'ici sont venus nous donner des bouteilles d'eau du pain. L'un d'entre eux a même proposé sa salle de bain pour qu'on puisse se laver. Un peu plus loin, Franck apporte des viennoiseries aux gendarmes qui encadrent le cortège. Un croissant et on peut avancer vers Rungis. Les militaires ont poliment décliné car l'heure est plutôt au rapport de force, titre le Parisien. Des tracteurs et des blindés face à face. Cette image, vous la retrouvez notamment photo pleine page à la une de la Voix du Nord. Un bras de fer qui se joue aussi à Bruxelles. Le Figaro, les Échos parlent d'un jour clé, d'un possible tournant à la crise. Sommet extraordinaire où Emmanuel Macron jouera sa partition solo, écrit l'Opinion.
L'autre sujet du jour à Bruxelles, ce sera l'aide à l'Ukraine.
Oui, dans une ambiance surréaliste, là encore David. Car en coulisses, à Bruxelles, on fait les comptes, raconte Le Monde. Mais oui, au fait, quel pays a donné quoi à Kiev? Combien de missiles? Combien de munitions? Et au jeu des classements, la France est 15e, pas fameux. L'Allemagne, 2e au classement, passerait son temps à le souligner d'ailleurs. Berlin joue la transparence totale jusqu'au nombre de cartouches de petits calibres, quand d'autres se camouflent derrière le secret défense. Ce qui fait se jouer à Bruxelles aujourd'hui, c'est une partie de poker menteur. Un diplomate européen temporise. Arrêtons de jouer avec les chiffres. Ce sommet ne doit pas se transformer en concours de beauté.
Poker menteur à Moscou également.
Et le site internet du Figaro relaie ce matin une information passée inaperçue à quelques semaines de la présidentielle russe. La déclaration de patrimoine de Vladimir Poutine. L'actuel président, David, indique une fortune de 67 millions de roubles. 67 millions de roubles, ça fait un peu moins de 700 euros, salaire et pension militaire comprise. Vladimir Poutine, décidément bien modeste, posséderait un appartement de 77 mètres carrés ainsi qu'un garage de 18 mètres carrés à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce garage? Deux vieilles voitures des années 60 et une caravane de camping de 1987. Surréaliste aussi, l'interview dans La Croix du futur adversaire de Vladimir Poutine à cette élection, Boris Nadejdine. « Je n'ai pas peur », lance cet opposant à la guerre en Ukraine. Les autorités russes peuvent finir par m'arrêter, lancer une campagne de dénigrement, mais je me tiens prêt.
Un autocrate également dans le Figaro.
Oui, autocrate, mais éclairé, hein. C'est l'expression retenue par le quotidien pour nous parler de Mark Zuckerberg. Son mastodonte Facebook fête ses 20 ans ce week-end. Et une question, qu'est-ce qui a changé chez Mark Zuckerberg depuis 2004? Son look vestimentaire, évidemment. Avant, c'était sweat à capuche et claquettes de piscine. Maintenant, il ne jure que par les t-shirts gris. Dossier ce matin sur ce patron qui nous voulait du bien, qui voulait rapprocher le monde et qui se retrouve dans la tempête des fake news et des ingérences étrangères. Son principal fait d'arme, retient Caroline Salé, c'est peut-être d'avoir fait mentir André Malraux. L'homme n'est plus ce petit tas de secrets misérables. C'est aujourd'hui un amas infini de données monétisables. Zuckerberg a dopé notre ego, des pouces en l'air, de cœurs et des likes pour flatter cette envie irrépressible de se montrer.
Et puis aussi des fausses informations dont la Russie tire parti. Donc Poutine peut dire merci à Mark Zuckerberg.
Exactement.
Le culte de l'apparence jusqu'à l'extrême.
Oui, alors exercice pratique, un peu plus loin dans le supplément le Figaro et vous, cette quête de l'apparence, ces visages frais comme la rosée vantés par les réseaux sociaux et irriguent la génération Z. Résultat, ils sont obsédés par leurs rides. La première crème anti-âge, on l'achète maintenant vers 23 ans. Emma se lamente. Je viens de souffler mes 25 bougies. Hélas, je ne suis plus aussi jeune qu'à l'époque. Dès le premier pli sur le front, certaines se ruent vers des injections de micro-doses de Botox. Un docteur témoigne. Ce n'est pas chez le chirurgien esthétique que je les envoie, c'est chez un psychologue. Un autre s'inquiète. Maintenant, ce sont les adolescents qui se questionnent sur la vieillesse alors qu'ils sont en pleine puberté.
Et qui remplissent les salles de musculation. Voilà. Le grand âge dans les kiosques ce matin.
Oui, le point vous parle de l'affaire Delon avec les confidences d'Iromi Rollin, la compagne de l'acteur aujourd'hui déchu. Le Parisien, lui, vous offre une cure de jouvence. Amanda Lear, 84 ans, selon sa fiche Wikipédia. L'ancienne mannequin monte sur les planches et ne compte pas en rougir. Arrêtons de dire, ce n'est plus de mon âge. Le secret, c'est de s'occuper de son moteur, le nettoyer, l'entretenir, plutôt que de rester chez soi à regarder Rex ou Columbo à la télé, lance l'ancienne muse de Salvador Dali. Dali, justement, à l'honneur dans un film la semaine prochaine et dont vous parlent Télérama et L'Obs cette semaine. Interview du réalisateur Quentin Dupieux qui fait jouer Dali par 6 acteurs différents, dont Édouard Baird. Il en fallait 6 parce que Dali est complexe, dit-il dans Télérama. Sa façon d'être, de s'éclipser, de toujours répondre à côté d'Ali, pathétiquement drôle quand il déclare « je suis un fromage ». Quentin Dupieux poursuit dans l'Obs le surréalisme à l'époque de Dali. C'était une envie de changer le monde. Aujourd'hui, tout est surréaliste dans la bouche des gens.
Et ce film de Quentin Dupieux avec 6 Dali différents, on vous en parle la semaine prochaine avec Samuel Blumenfeld qui en a fait son film de la semaine. Merci Marc Bourreau. On vous retrouve lundi, vous, pour le journal imprévisible. Dans un instant, Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. Et juste avant, on parlera d'un livre signé par une journaliste de la rédaction de Radio Classique. Elle s'appelle Annabelle Roger. Elle signe au Perchoir. C'est paru à l'Archipel et ça parle de l'Assemblée.